Merci de nous écouter, Kevin Couté, pour le magazine Dialogue entre Congolais.
Bonsoir. Dans son dernier rapport publié cette semaine, l'initiative pour la transparence dans la gestion des industries extractives ITRDC a relevé les écarts entre les déclarations des recettes perçues par les régies financières de l'État et les déclarations des recettes réalisées par les entreprises extractives. Comment expliquer la différence des chiffres publiés par les deux parties? C'est notre terme de ce soir. Trois invités pour le débat, à savoir Christian Mambou, coordonnateur national de l'ITRDC. Bonsoir, monsieur Christian Mambou.
Bonsoir, madame.
Jean-Pierre Moutemba, membre de la société civile et secrétaire général de la Nouvelle Dynamique Syndicale. Il est aussi membre du comité national de l'ITRDC. Bonsoir Jean-Pierre Moutemba.
Bonsoir madame.
Et François Gifouillé, analyste économique et expert en environnement. Bonsoir François.
Bonsoir madame Kelly.
Vous êtes nombreux à réagir comme d'habitude d'ailleurs au débat de ce soir. C'est le cas de Kajojo Belani de Mongwalou dans la province orientale. Ces différences ne peuvent nullement étonner personne, étant donné que les dirigeants des régies financières de l'État ont des fortunes en nature et en espèces qui sont extrêmement disproportionnelles à leur salaire. Le comble est qu'ils ne sont jamais inquiétés. Wabelo de Matadi au Bas-Congo, je pense que cette discordance des chiffres entre les industries extractives et les régies financières est justifiable suite aux manœuvres frauduleuses de certains acteurs politiques congolais qui encouragent la fraude et les pots de vin. Cette situation organisée oblige le gouvernement à fermer les yeux à certains dérapages de ces entreprises, de surcroît à moins de transparence dans les chiffres. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Un rapport de l'ITIE et l'initiative pour la transparence dans la gestion des industries extractives en RDC a publié lundi dernier à Kinshasa un rapport qui met en évidence les écarts existants entre les déclarations des recettes perçues par les régies financières de l'État et les déclarations des recettes réalisées par les entreprises extractives. Ce rapport, le premier du genre, porte sur l'année 2007 et ne prend en compte que le cuivre et le pétrole. Selon l'ITIE, 26 entreprises extractives sur les 27 que compte la RDC ont accepté de communiquer leurs recettes réalisées en 2007. Plus de détails avec vous, Aimé Kamoua.
Sur les 27 entreprises identifiées dans ces deux secteurs, 26 ont accepté de communiquer les données des recettes encaissées durant l'année 2007. Le rapport de l'ITIE a ressorti des discordances dans les déclarations de recettes entre les régies financières et les sociétés extractives. Les régies financières ont souvent déclaré avoir perçu plus que ce que les sociétés extractives ont déclaré avoir versé. Et au sujet de ces écarts, la société civile réclame des sanctions. Jean-Pierre Moutemba est le représentant de la société civile secteur mine à l'ITIE.
Ce qui est important pour nous, c'est que le gouvernement puisse prendre des mesures urgentes pour que les responsabilités par rapport aux écarts soient déterminées et que les sanctions soient prises. Nous souhaiterions une loi sur la transparence, de manière à ce que toutes les personnes physiques et morales de notre pays, étrangères ou nationales, qui viennent élever dans notre pays, soient obligées de publier tous les paiements qu'elles effectuent vis-à-vis de l'État.
Après la publication, le ministre du Plan, Olivier Kamitatou, a vanté le processus de transparence et est retombé sur le social de la population.
Nous souhaitons avoir simplement les données de ce qui est payé, déclaré, de ce qui est également retenu dans les caisses du Trésor et voir s'il y a des discordances. Tout cela parce que nous avons une volonté beaucoup plus de transparence.
Notez que pour l'exercice 2007, seul le cuivre et le pétrole ont été pris en compte par ce rapport. Les autres minerais entreront en compte dans le prochain rapport.
Christian Mambou, vous êtes coordonnateur national des listiers RDC. Et je sors de ce rapport plusieurs écarts. À titre d'exemple, on constate une différence de plus de 32 millions de dollars sur les déclarations de la DGRA et celles des entreprises du secteur des hydrocarbures. Comment vous pouvez nous expliquer, comment peut-on expliquer ces écarts?
Merci bien, madame. Avant de commencer par expliquer ces écarts, je crois qu'il est de bon aloi de commencer par expliquer ce que c'est que l'ITIE.
Oui,
comme des mortels ne connaît pas ce que c'est l'ITIE. C'est un vocabulaire nouveau, c'est un concept nouveau dans le milieu économique et le milieu scientifique de notre pays. Alors il faudrait d'abord commencer par expliquer ce que l'ITIE. Très rapidement, je dirais que l'ITIE, c'est l'initiative pour la transparence dans la gestion des industries extractives. C'est une initiative lancée en 2002 par Tony Blair, lors du sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg. Donc, c'est parti du constat que beaucoup de pays riches en ressources naturelles ne bénéficiaient pas de leurs ressources. Au contraire, ces ressources étaient au centre de plusieurs conflits et beaucoup d'entreprises entretenaient une certaine opacité dans les recettes provenant de ces ressources et certains pays aussi étaient en connivence avec certaines entreprises multinationales pour ne pas mettre au clair donc devant le public tout ce qu'ils percevaient au titre des impôts, taxes et royalties de ces entreprises. Voilà. À peu près. Et voilà, l'idée c'est de vouloir faire bénéficier à toutes les populations les recettes de manne que le bon Dieu a bien voulu mettre dans sur mon sol et mon sous-sol.
Je crois que les auditeurs ont compris. Revenons à notre sujet.
Alors, maintenant, pour parler des écarts. Les écarts, c'est normal qu'il y ait des écarts, normalement, parce que l'ITIE n'existerait pas s'il n'y avait pas d'écart. Parce que pour que l'ITIE existe, il faut que l'ITIE puisse publier ce que les entreprises ont dû payer et ce que les régies ou les structures de l'État, nous parlerons plus des structures de l'État, parce que ici, il n'y a pas que des régies financières. Il y a aussi l'OCC qui n'est pas une régie financière, qui est une structure de l'État. Donc nous parlerons plus en termes de vocabulaire structure de l'État et entreprise extractive. Donc les écarts, c'est vrai qu'il y a eu des écarts. Bon, d'abord il faut nous replacer dans le contexte. Nous avons fait notre premier rapport sur base de l'exercice budgétaire 2007. Donc du point de vue de l'âge de statistiques, c'est de l'âge un peu plus récent par rapport à l'actualité. C'est-à-dire 2007 n'est pas très loin de 2010. Et nous avons voulu 2007 parce que à ce moment, on pourrait savoir que dans les annales des entreprises, comme des structures de l'État, il y a déjà des statistiques réalisées. Mais nous devons savoir aussi que nous avons voulu ces statistiques sur base des flux d'encaissement, donc comptabilité caisse. Donc là, j'insiste, comptabilité caisse, c'est ce qu'on a payé réellement, pas ce qu'on s'est engagé à payer. Parce qu'un exercice budgétaire se termine entre deux exercices civils. L'exercice budgétaire 2006 se termine en 31 mars 2007. Donc vous devez savoir qu'il y a des frais de 2006 qui se font payer en 2007 au 31 mars. Et puis le 2007 commence le 1er janvier 2007. Donc c'est entre deux exercices, il y a eu deux exercices dans le flux. C'est comme ça que nous avons voulu que ce soit des déclarations sur base de l'encaissement. Mais là, déjà, c'est parti déjà une certaine incompréhension parce que nous avons lancé une note explicative.
Incompréhension entre qui ?
Entre les entreprises qui devaient déclarer et les structures de l'État qui devaient déclarer aussi. Mais nous avons fait plusieurs réunions, plusieurs séances d'explication, de renforcement des capacités. Nous sommes descendus plusieurs fois à Lubumbashi parce que nous sommes basés sur la filière cuivre et cobalt pour ce qui est des mines. Et nous sommes basés sur le pétrolier producteur, pour ce qui est du pétrolier producteur offshore de Mwanda. Et nous avons fait plusieurs séances de renforcement de capacité à ce moment-là. Et je vais vous dire une chose. Avant de rentrer dans le vif du débat, vous devez savoir aussi que tout ce qui est nouveau a une certaine appréhension dès le départ. Donc les entreprises ont comprendre après le bien fondé de l'ITIE qui marchait justement pour éclairer ce que eux ils payaient réellement, pour éclairer l'opinion sur ce que eux ils payaient réellement. Au départ, certaines de ces entreprises croyaient que c'était une nouvelle tracasserie. D'où il y avait une certaine réticence au début pour donner déjà les statistiques de paiement.
Et même les entreprises payent réellement.
Les entreprises payent. Ils payent et ils adhèrent massivement à l'initiative. Parce qu'ils ont trouvé que c'est une initiative qui est normalement salvatrice pour eux, parce que ça démontre qu'ils ne sont pas seulement là pour pouvoir exploiter de façon exagérée, de façon effrénée nos richesses, mais ils contribuent aussi au développement économique de notre pays.
Oui, mais Christian, vous expliquez-nous, dites-nous comment on peut expliquer ces écarts.
Bien, justement, pour parler des écarts maintenant, c'est comme ça que je voulais qu'on redéfinisse d'abord les cadres. J'ai dit, c'était sur base de. Nous avons voulu sur base de la comptabilité caisse. Mais les écarts ne sont pas toujours négatifs du point de vue des structures de l'État ou du point de vue des entreprises. Vous verrez dans les écarts, des fois, les entreprises déclarent avoir payé. Mais les structures de l'État disent qu'ils n'ont pas reçu. Des fois, les structures de l'État déclarent avoir reçu et les entreprises disent qu'ils n'ont pas, déclarent n'avoir pas payé. Mais en cela, il y a plusieurs explications. La première des explications, c'est ceci. En 2007, la réglementation d'échange de notre pays a permis à ce que les entreprises puissent payer en monnaie étrangère. Déjà, ça c'est une chose, donc RME. Or, en province, il n'y avait pas de compte RME. Beaucoup des entreprises qui ont payé les impôts, taxes et royalties l'ont payé à tout certain dans au compte RME à la direction générale de ces régies ou de ces structures de l'État. Alors, quand le conciliateur est parti sur son travail au niveau des provinces, évidemment, il n'a pas pu trouver les statistiques là-bas parce que le compte n'a pas été décaissé là-bas ou les régies n'ont pas perçu l'argent là-bas. Donc ça, c'est déjà un élément qui peut expliquer les écarts. Deuxièmement, on peut dire qu'en 2007 aussi, à part le compte RME, il y a eu aussi, comment dit-on ça ? Il y a eu aussi d'autres explications qui pourraient provenir des engagements. C'est-à-dire, les structures de l'État, par rapport aux structures, par exemple, je peux prendre les structures de l'État.
Rapidement. Oui.
Les structures de l'État, par exemple, ils ont fait sur base des engagements. Ils disent que nous avons envoyé des notes de perception d'OTAN. Donc, eux, quand le conciliateur est venu pour faire la conciliation, eux, ils ont donné des engagements. Des engagements au titre de 2007. Pas les paiements à 2007. À l'année 2007.
Uh-huh.
Mais les engagements au titre de paiement de l'exercice 2007. Alors, quand vous remarquez, en 2007, il y a eu des paiements qui ont été de 2006 qui se sont faits en 2007, ce que nous recherchons, et les paiements qui ont été de 2006 qui ont été faits en 2007, ce que nous recherchons, et quand une entreprise ou une structure déclare que les paiements de 2007, évidemment, ça crée un écart par rapport à celui qui aurait déclaré, et les paiements de 2006 fait à 2007 et le paiement de 2007 fait à 2007.
Voilà, merci Monsieur Christian Mambo. François Jekouille, vous êtes analyste économique et expert en environnement. Vous venez de recevoir les explications que nous a données Christian Mambo, coordonnateur national de l'ITRDC, par rapport à cet écart qu'on constate entre les structures de l'État et les entreprises. Vous, quelle analyse vous faites lorsque vous voyez, par exemple, ces écarts de chiffres 32 millions, par exemple, entre les entreprises du secteur des hydrocarbures et la DGRAD?
Et c'est beaucoup plus que ça si on voit globalement les rapports des litiers, parce que les rapports des litiers fait état des 200 millions de dollars d'écart dans l'ensemble des recettes qui auraient dû être perçues par le Trésor public. Moi, je crois que les raisons, au-delà de ces questions techniques qui viennent d'être évoquées et qui sont réelles, je crois qu'il faut aller en profondeur pour voir quelles sont les vraies raisons de la fuite des recettes de l'État dans la caisse de l'État. La première préoccupation, elle est du point de vue technologique. Moi, je pense, et je l'ai souvent dit sous vos antennes et ailleurs, qu'il importe que l'État congolais se dote des mécanismes de traçabilité. C'est-à-dire qu'il faut que, au moment où un redevable d'un impôt paye, l'argent qu'il paye se répercute dans tout un système, c'est-à-dire la banque par laquelle les redevables a payé, le ministère des Finances, les structures mobilisatrices des recettes, ce serait la DGRAD, la DGI, l'OFIDA, ça doit se répercuter sur un système informatique immédiatement. Ce système nous manque aujourd'hui dans notre pays. Mais il y a un deuxième problème qui n'est pas technologique, celui-là, c'est un problème humain. Vous savez très bien qu'il arrive par moment qu'il y ait des modes de perception qui sont établis et au moment où la personne a payé, on lui fait des faux papiers pour garantir que la personne a payé au moment où l'argent n'est pas allé dans la caisse de l'État. Donc, cette question humaine doit être réglée en mettant à l'aise les personnes qui travaillent. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que des personnes qui participent à la mobilisation des recettes de l'État soient clochardisées en termes de leur rémunération et sont souvent obligées de faire des grèves pour avoir des primes de la rétrocession qui leur est due légalement. Donc cette question devra, à mon avis, aussi être résolue pour éviter qu'il y ait dilapidation des recettes de l'État. Mais il y a aussi un problème politique, c'est le clientélisme. Le mode de recrutement des mandataires de l'État, jusqu'à ce jour, est tributaire de l'appartenance soit à un parti politique, soit à des relations avec les membres de la famille, et logiquement, ces personnes ont des comptes à rendre aux personnes qui les ont nommées. Et logiquement, ils ne peuvent pas retourner l'ascenseur, comme on aime le dire, par les salaires, qui ne sont pas eux-mêmes suffisants. Donc, ils sont souvent malheureusement obligés de puiser dans la caisse de l'État pour pouvoir donner à leur maître quelque chose. Et donc, ils organisent une mafia dans les processus de récolte des recettes de l'État. Mais il y a aussi un problème éducationnel. Aujourd'hui, les Congolais n'ont pas la culture de l'impôt. À l'époque, quand nous étions beaucoup plus jeunes, on savait que chaque citoyen payait l'impôt per capita, hein, l'impôt individuel. Aujourd'hui, à ma connaissance, cet impôt n'existe plus. Donc, les Congolais estiment que, étant donné que la plupart des fois, quand ils payent un impôt, ils ne voient pas quelque chose en retour, en termes soit d'infrastructure, en termes d'amélioration des conditions de vie des personnes qui sont à la charge de l'État, il y a une démotivation à payer l'impôt. Et malheureusement aussi, il y a un problème de l'assiette. Aujourd'hui, j'ai suivi le point de vue de M. Yuma, le président de l'AFEC, qui a démontré que l'AFEC comprend aujourd'hui 3000 entreprises, et c'est ces 3000 entreprises qui génèrent 110% des recettes de l'État. Donc, il y a tous ces problèmes qui entourent les mécanismes de mobilisation des recettes de l'État qui doivent être résolus pour éviter effectivement que de tels cas ne soient enregistrés dans l'économie congolaise. Mais vous vous rendez compte que les cas qui sont à nos yeux aujourd'hui, les cas examinés par l'UTIE, ne concernent que 20 entreprises minières œuvrant exclusivement au Katanga dans la filière cuivre cobalt et 5 entreprises pétrolières œuvrant au Bas-Congo. Déjà, sur base des 25 entreprises, on remarque des écarts de l'ordre de 200 millions de dollars. Si on devrait aller maintenant sur les 3000 entreprises qui sont membres de la Fédération d'entreprises congolaises et des entreprises qui sont dans d'autres corporations comme la Copemeco et autres, vous vous rendrez compte qu'il y a une manne importante de recettes de l'État congolais qui sont en train de partir en fumée entre des mains de personnes parce que ici, les niveaux où l'UTIE a vérifié les écarts, ce n'est même pas au niveau où on s'interroge pour savoir combien d'entreprises minières devraient payer et combien ils ont payé. Et ils se contentent simplement de vérifier combien ils ont payé. Vous vous rendez compte? Mais si on allait au fond pour savoir combien ces entreprises minières devraient réellement payer, combien ils ont payé et combien est arrivé dans la caisse de l'État, et enfin, comment on a utilisé cet argent-là, on pourrait crier davantage aujourd'hui au scandale. Donc, j'estime qu'il y a beaucoup à faire pour qu'on arrive effectivement à éviter ce genre de situation, mais il faut prendre le taureau par les cornes et, comme je viens de vous le dire, doter les structures mobilisatrices des restes de l'État des moyens technologiques qu'il faut, prendre en charge l'homme pour qu'il puisse se mobiliser pour pouvoir travailler effectivement, régler les mécanismes de nomination des mandataires publics pour qu'ils soient des mandataires plus ou moins indépendants et responsables, mais aussi enseigner la population à la culture de l'impôt qui n'existe pas encore dans notre pays.
Selon vous, M. François Nzekouye, qui des deux parties, c'est-à-dire les structures de l'État et les entreprises, ne donnent pas les vrais chiffres, les chiffres réels
De mon point de vue, je crois que c'est beaucoup plus les structures de l'État. Ce n'est pas parce que c'est le secteur privé que je les défends. Parce que, comme l'a dit M. Mambou, ils se sont basés sur les données caisses. C'est-à-dire quoi? C'est que les entreprises minières ont réellement payé. Ils ne peuvent pas, l'entreprise minière ne peut pas mentir sur ce qu'il a réellement payé parce qu'il y a un ordre de paiement qui a été signé et il y a des preuves de paiement que les banques donnent aux entreprises pour attester que l'argent est réellement entré dans un compte bancaire. Donc, l'endroit où il y a le plus de risques de se tromper ou de falsifier la réalité, c'est au niveau des structures étatiques qui peuvent avoir des documents d'engagement, comme il a dit, des notes de perception, qu'ils envoient. Ils perçoivent plus ou moins, je ne sais pas par quel mécanisme, bien évidemment, parce qu'une entreprise ne peut payer une somme quelconque à l'État, c'est sur base d'une note de perception qui est l'engagement qui est établi par le service générateur des réceptants, ça pose quand même la question du flou. Il faut qu'on nous éclaire davantage. Malheureusement, il n'y a pas des agents ni du ministère des Mines, ni d'autres, plutôt du ministère des Finances ici, et ou alors leur structure génératrice des réserves, comme la DGI, DGRAD ou autres, qui auraient pu nous éclairer sur les mécanismes et nous dire où est-ce qu'ils estiment qu'il y a eu problème. Mais je crois que c'est une question qui nécessitera une enquête sérieuse de la Cour des comptes, du Parlement, et d'ailleurs, pour qu'on arrive à savoir exactement, avec un recul, parce que nous sommes en 2010 et nous sommes en train de parler des faits qui sont produits en 2007, pour savoir où sont partis toute cette manne, parce que quand même, 200 millions de dollars, ce n'est pas rien.
Voilà, merci François-André Couillet. Jean-Pierre Moutéba, vous êtes membre de la société civile et secrétaire général de la Nouvelle Dynamique Syndicale. Vous êtes aussi membre du comité national de l'ITIE et ADC. Vous avez déclaré qu'il n'y avait pas de transparence dans la gestion des structures de l'État. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là, Jean-Pierre Moutéba?
Ce que je veux dire d'abord, c'est que parmi les 27 entreprises, il y a une entreprise qui n'a pas déclaré, mais qui n'a pas encore démarré la production. Et en l'occurrence, Kinganyambo Moussonoï Pelling. Cette entreprise est en construction et d'ailleurs, depuis bientôt 8 mois, elle est arrêtée par la décision du gouvernement de la République dans le contrat de régulation des contrats miniers. Donc, c'est une entreprise de laquelle on ne pouvait pas attendre grand-chose parce qu'elle n'a pas encore commencé à exploiter et à produire pour pouvoir justifier le paiement de beaucoup de taxes. Cependant, elle doit payer quelques taxes qui sont du reste minimes, mais c'est celle-là qui n'a pas pu produire des données parce qu'elle est d'ailleurs fermée depuis plusieurs mois. Donc, pour ce qui est des écarts, nous, à la société civile, nous estimons que les écarts qu'on a présentés sont minorés. Ces écarts-là ne sont pas des écarts réels parce que dans les secteurs des mines, dans les secteurs pétroliers, ces écarts ne sont que la partie de l'iceberg qui apparaît. Mais toute la grande partie du mafia qui existe dans le secteur est encore, c'est pas ignoré et nous devons arriver, n'est-ce pas, à pouvoir mettre à jour ce manque à gagner de l'État qui est important. Donc par rapport aux écarts qu'on a constatés, vous devez savoir que c'est vrai que sur le plan technique, la comptabilité veut que l'année comptable se termine au 31 mars. Et c'est vrai que par rapport aux définitions comptables, d'abord, il y a eu ces manques de définition qui a fait que les entreprises qui ont déclaré et les structures de l'État ne puissent pas s'accorder sur ce qu'on devait déclarer. Ça, c'est vrai. C'est vrai aussi que du fait qu'on n'a pas défini de manière claire le modèle de reporting, ça posait des problèmes par rapport aux données récoltées. Mais c'est vrai que les entreprises et les structures de l'État souvent travaillent en connivence pour pouvoir minorer objectivement ou minorer de manière tout à fait volontaire les recettes dues à l'État. Donc là, nous allons d'ailleurs, nous à la société civile, produire des rapports dans 2 semaines précisément pour pouvoir démontrer que les écarts là qu'on a déterminés dans ce rapport sont des écarts minorés de manière volontaire, notamment dans ces données qu'on a recueillies.
Et comment vous allez vous y prendre pour prouver cela?
Nous allons prouver en allant d'abord récolter les productions de ces entreprises, parce que les productions, nous pouvons les recueillir soit dans certaines structures, soit dans d'autres services qui n'étaient pas concernés. Et de deux, par rapport à la réglementation minière et pétrolière, il y a des taux de paiement qui sont prévus par les codes miniers, par exemple. Pour la redevance minière, les non-ferrés, on sait que c'est 3%. Dès lors qu'une entreprise a produit, c'est pas autant de tonnes, et que là, exporter ces tonnes-là, 8 jours après, cette entreprise est obligée de payer la redevance minière à 3% par rapport au cours des métaux. Donc, c'est tous ces éléments-là qui nous permettraient de dire l'entreprise Y a produit autant, devait payer autant et a payé autant. Donc, nous allons là découvrir qu'il y a les écarts qu'on a montrés sont des écarts minimisés. Nous savons comment le gouvernement travaille, mais nous allons démontrer qu'il y a des écarts beaucoup plus importants que ceux qui ont été retenus dans les rapports.
Voilà, merci Jean-Pierre Moutemba, Christian Mambou. En plus des explications techniques que vous nous avez données par rapport à ces écarts, François Zekouli a évoqué d'autres causes ou raisons qui sont à la base de ces écarts. Il a parlé entre autres du système informatique, un problème d'homme. Comment vous répondez à François Zekouli?
Oui, il a raison. Le système informatique n'est pas encore au point. Par rapport déjà à l'ITIE, nous devons mettre en place un système informatique qui pourrait nous permettre de recueillir les déclarations au jour le jour, parce que les déclarations ne se font pas tous les jours, toutefois à la fin de l'année ou à une période donnée. Lorsqu'il y a par exemple exportation, il y a des déclarations. Lorsqu'il y a importation, il y a des déclarations. Et nous n'avons pas encore un système qui réunit un système serveur qui nous permet de recevoir ces informations à temps réel. Mais le système d'homme, l'homme restant l'homme est le même partout, hein, vous savez.
C'est-à-dire quoi, l'homme est le même partout?
L'homme est le même en Europe, l'homme est le même aux États-Unis, l'homme est le même en Afrique. Je crois que l'homme congolais n'est pas en dehors de l'homme de commun des mortels. C'est d'abord le cadre, c'est-à-dire que notre pays doit commencer par respecter les textes qu'elle met en place. Parce que lorsque nous mettons des textes en place, nous devons savoir les respecter. Lorsque nous voulons toujours harmoniser par rapport à nos attitudes, à nos comportements, en mettant de côté les textes que nous-mêmes nous avons mis en place, ça entraîne un petit désordre qui fait que des fois on va vers le dérapage. Mais je me dis que l'homme, s'il est mis dans un contexte bien défini où il fait son travail et il est bien rémunéré, je ne pense pas qu'on pourrait parler de l'homme congolais comme un homme atypique.
C'est-à-dire facilement corruptible?
Je ne dis pas ça, parce que l'homme congolais n'est pas spécialement corruptible comme contrairement à tout autre homme qui resterait dans notre pays. Mais je dis que un homme mis dans les bonnes conditions, dans la bonne formation, dans les bonnes conditions de travail, il va travailler comme tout homme qui a été formé pour faire ce travail-là. Je ne pense pas, je crois que on a parlé de recrutement, de mandataire, ça c'est un discours vieux comme le monde, parce que nous avons été jeunes. On a vécu à l'époque de la Deuxième République, on parlait déjà des mandataires, on refusait les mandataires. Nous voyons votre aîné Kwebe Kimpele tous les midis déclarer les remaniements, les changements des mandataires, mais la République n'a pas avancé d'un point. Aujourd'hui, nous pensons même que nous sommes en train de faire un pas en avant avec la nouvelle politique. Je ne parle pas politique ici, je suis coordonnateur de l'ITIE. Vous m'avez posé une question, mais je me dis que le commun des mortels est en train de voir le tas d'avancement de notre pays. Ce n'est pas comme il y a 15 ans, il y a 20 ans.
Voilà, François Zekouli a relevé un autre problème. Il y a même Jean-Pierre Moutemba qui est revenu sur ça. Est-ce que ces entreprises payent réellement ce qu'ils devraient payer?
Bien, d'abord, nous sommes en phase de déclaration de paiement. Ce qu'ils ont déclaré avoir payé. Mais est-ce qu'ils ont déclaré ce qu'ils devaient payer? Ça, c'est la deuxième phase de l'étude. Ça, c'est ce qu'on pourrait avancer dans les années à venir. On va faire une confrontation entre la production et la déclaration de paiement. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'ils n'ont pas déclaré ce qu'ils devaient payer parce que nous n'avons pas d'échiquier de comparaison. Nous n'avons pas d'éléments de comparaison. Pour dire qu'ils n'ont pas déclaré ce qu'ils devaient payer, il faut le confronter à un autre paramètre. Par exemple, la production. On peut dire qu'ils ont exporté autant, cette production représentait autant, au prorata de cette production, on pouvait tirer tel niveau d'impôt ou tel niveau de taxes et de royalties ou de redevances. Mais à ce niveau, ici, nous n'avons pas fait cette analyse-là. Nous n'avons pas fait l'analyse sur base de production, déclaration. Nous avons fait une analyse sur base de la déclaration. Déclaration faite pour le paiement de l'exercice 2007. À ce titre-là, je ne peux pas m'avancer pour dire qu'ils n'ont pas déclaré ce qu'ils devaient payer ou ils ont déclaré plus que ce qu'ils devaient payer ou ils ont déclaré moins que ce qu'ils devaient payer.
Voilà, merci Christian Mambou. François Zekouli, il y a cet auditeur de Kinshasa qui dit ceci. Dans notre pays, toutes les sociétés en général n'ont jamais déclaré de vrais chiffres aux employés des régies financières. D'abord, les agents affectés à cette fin ne sont pas bien motivés et par conséquent, ce sont eux-mêmes qui donnent des propositions d'arrangement des magouilles aux opérateurs économiques. Comment voulez-vous que ces derniers aient la conscience civique de fiscalité tant que la justice ne sera pas rétablie, c'est-à-dire mettre fin à l'impunité, rien ne marchera dans ce secteur économique.
Oui, je partage entièrement son point de vue. J'estime que ce sont des choses que nous connaissons tous. Et nous savons, il suffit d'avoir une quelconque activité économique pour s'en rendre compte au quotidien. De quelle manière, effectivement, malheureusement, certains agents des fiscs, je ne veux pas dire tous, il ne faut pas avoir tendance à généraliser. Il y a des bons agents des fiscs dans notre pays, mais il y a aussi des mauvais, effectivement, malheureusement. Quand on met une orange pourrie dans un panier, il contamine tout. Donc, je crois que ce fait-là, il est réel, où on rencontre des agents des fiscs qui viennent nous faire des propositions, comment faire échapper au fisc une partie de ce qui lui est dû, et en contrepartie, il attend que vous lui donniez quelque chose. Ce sont des faits qui sont vécus aux yeux et aux vues de tout le monde. Et malheureusement, il y a effectivement ce problème d'impunité qui est aussi moralement lié à la suite des gouvernances de notre pays. Quand on se rend compte que depuis des années et des années, il y a une minorité qui s'enrichit, chaque fois qu'il y a alternance au pouvoir, on crée de nouveaux riches. Et donc, cette situation, bien évidemment, vis-à-vis des petits agents de l'État, les met en déphasage au point que eux-mêmes, ils ne savent pas prendre les décisions qui s'imposent pour pouvoir sanctionner les petits agents parce qu'eux-mêmes, à leur niveau, ne sont pas exemplaires. Donc, ça pose quand même un problème de déontologie et de morale. Mais pour revenir sur la question que nous débattons ici, moi, je crois que il faudrait, par rapport aux écarts d'ordre technique, essayer d'harmoniser la période des récoltes des données. Parce qu'apparemment, comme l'a dit M. Mambou, les entreprises ont déclaré ce qu'ils ont payé pendant une période fiscale. Les agences ou les structures étatiques se sont contentées de ce qu'ils devraient percevoir pendant une période budgétaire. Et donc, déjà, à ce niveau-là, il y a des écarts qui peuvent être justifiables. Et donc, si on harmonisait dans les prochains rapports, la période où on doit récolter les données, pour dire, nous nous mettons d'accord ensemble sur la période de récolte des données, à ce moment-là, on va éviter un certain nombre d'écarts qui sont d'ordre technique. Mais aussi, je crois qu'il y a mieux à faire, parce que cela ne résout pas le problème de la corruption ou de la dilapidation des recettes de l'État. Moi, je crois qu'il y a un effort davantage qui doit être fait pour mettre de plus en plus les entreprises qui sont dans l'informel, dans l'informel. Et malheureusement, ces entreprises qui sont dans l'informel sont des entreprises qui appartiennent à des personnes qui ont une puissance politique dans le pays, qui ne déclarent jamais les impôts, mais dont on voit qu'ils sont en train de construire des immeubles, qui ont des biens matériels, qui montrent une certaine richesse, sans pour autant justifier en contrepartie quelle activité ces personnes ont pour pouvoir avoir ce qu'ils ont. Je crois que un effort dans ce sens pourrait nous permettre d'agrandir l'assiette fiscale de notre pays, parce qu'il n'est pas normal qu'un pays de 100 millions d'habitants si riche qu'est la RDC, où on voit des personnes individuellement riches, que l'État soit si pauvre. C'est inadmissible. Mais je crois aussi, avec la loi sur la passation des marchés qui va être bientôt votée au Parlement, on pourra assister à un minimum de transparence dans la passation des marchés. Parce que nous savons qu'une bonne partie de l'argent est dilapidée grâce au marché de gré à gré. C'est-à-dire, on s'arrange, moi et Mme Kelly, je viens faire un travail chez vous, il n'y a pas de concurrence avec d'autres qui peuvent présenter peut-être des offres plus avantageuses, et vous me donnez le marché, mais en contrepartie, je vous retourne quelque chose. Ce sont les faits que nous vivons dans ce pays. Je crois que cette loi va aider dans ce sens-là, mais je crois que toutes les sociétés au Congo, comme l'a dit cet auditeur, ne déclarent pas exactement cette hypothèse. Mais il faut qu'il y ait des mécanismes de vérification, des recoupages. C'est-à-dire quoi? J'ai une entreprise de services. Je suis payé par telle entreprise à qui j'ai presté des services. Il est possible, en vérifiant ma comptabilité à moi, ce que je déclare, avoir payé, et ce que vous vous déclarez m'avoir payé, recouper quelque chose pour se dire, écoute, quelque part, il y a celle ou telle autre qui a fraudé. Donc, les mécanismes existent et ils sont connus, tous les fiscalistes les savent, mais ils ne les mettent pas en pratique, soit par démotivation, soit par complicité.
Merci François-André Couillet. Jean-Pierre Moutemba, il y a sept autres auditeurs, Kajojo Delani de Mongualou, dans la province orientale, qui dit ceci. Ces différences ne peuvent nullement étonner personne, étant donné que les dirigeants de ces régies financières de l'État ont des fortunes en nature et en espèces qui sont extrêmement disproportionnelles à leur salaire. Le comble est qu'ils ne sont pas inquiétés.
Oui, en effet, nous avons fait des enquêtes là-dessus. On a constaté que les responsables des structures de l'État, parfois, ils ouvrent des comptes parallèles. C'est-à-dire une entreprise qui vient verser l'argent, au lieu de verser dans le compte de l'État, il verse plutôt dans un compte qui appartient à cette personne ou à des personnes qui sont en train de gérer les structures. Là, nous avons constaté, et c'est du fait qu'il y a un manque à gagner de l'État. Alors, d'autre part, quand vous allez faire des enquêtes dans des entreprises, quand il y a des écarts de 16, 17, 18 millions pour une entreprise, par exemple avec la DG ou la DGRAD, tout de suite, les responsables de la régie vous disent que non, c'est dans les redressements. Or, nous ne pouvons pas accepter qu'un redressement arrive à 16, à 18 ou à 20 millions. Ça, nous pensons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en dessous. Donc, ce qui est vrai, c'est que quand vous regardez le niveau de vie des amis qui travaillent dans ces structures de l'État par rapport à leur salaire, vous allez vous rendre tout de suite compte où va l'argent de l'État. Donc, l'argent de l'État va chez ces agents-là, chez ces personnes-là, mais aussi une partie reste dans ces entreprises. Donc, c'est des arrangements entre les structures de l'État et les entreprises qui font qu'il y a des manques à gagner. Vous avez constaté cela dans certaines entreprises du Katanga, dont je ne vais pas citer le nom ici, qui ont eu des problèmes depuis l'année dernière avec telle ou telle structure de l'État. Et on a découvert qu'il y avait effectivement des paiements qui n'ont pas été faits selon les règles. Donc ça, c'est d'une façon générale. Et quand vous regardez, s'il y a deux ou trois structures qui ont été identifiées dans ce cas-là, si on peut faire une analyse ou on peut faire un contrôle pour toutes les structures de l'État, rien que dans la province du Katanga, on va se rendre compte que c'est toute une montagne de corruption, de ceci, de détournement de fonds et tout. Donc ce que nous, société civile, nous attendons de l'État maintenant, du gouvernement aujourd'hui, ce n'est pas de nous dire non, ces écarts sont dus, expliquer non. C'est d'abord de chercher quelles sont les responsabilités, de prendre des mesures pour pouvoir arrêter définitivement cette affaire. Parce que c'est bien de faire plusieurs rapports. Si l'ITIE n'est un exercice de publication des rapports, les rapports où il y a des écarts, on améliore les bons rapports où il n'y a pas d'écart. Ce n'est pas ça l'ITIE. L'ITIE vise à ce que les contributions des entreprises puissent augmenter dans le budget de l'État. Pour ça, il faut prendre des mesures pour pouvoir arrêter cette hémorragie de la caisse de l'État par les entreprises qui ne payent pas suffisamment, par les personnels, par le personnel de l'État qui, n'est-ce pas, sont en train de favoriser ces détournements de fonds. Ça, c'est des choses que nous attendons du gouvernement maintenant. Au lieu que le gouvernement cherche des explications d'ordre technique, d'ordre matériel et ceci, le gouvernement doit d'abord se dire qu'il y a des problèmes dans ce secteur et il faut arrêter une fois pour toutes pour que ça ne continue pas.
Voilà, Jean-Pierre, si je vous comprends bien, l'ITIE ne fait pas bien son travail, mais vous-même, vous faites partie de cette structure.
Non, je ne dis pas que l'ITIE ne fait pas bien son travail. Quand nous avons terminé à produire un rapport et qu'il y a des écarts qui ont été identifiés, il appartient au gouvernement maintenant de se saisir de ce rapport-là pour prendre des mesures correctrices. C'est-à-dire que nous, à notre niveau, notre travail va se limiter à produire ce rapport-là. C'est ça le travail du comité national. Mais après qu'on ait produit le rapport, le gouvernement doit se réunir en urgence pour pouvoir identifier les écarts, pour pouvoir déterminer les causes de ces écarts et trouver des solutions, c'est-à-dire chercher des responsabilités, sanctionner ceux qui font sanctionner, c'est ça le problème, c'est ça le travail du gouvernement, c'est le gouvernement qui a l'initiative. Nous, notre problème à la société civile, c'est après qu'on ait publié ce rapport-là, nous allons publier d'autres rapports bientôt, qui vont démontrer en plus que ce qu'on a produit, ce n'est qu'une partie de l'iceberg, parce que le gros a été, bon, en fait, c'est ça, nous allons faire ce travail, et nous allons d'ici 2-3 semaines produire d'autres rapports qui vont confirmer que les écarts-là sont des écarts amoindris, mais les écarts sont plus importants en réalité.
Mais en tant que société civile, qu'est-ce que vous faites pour pousser le gouvernement à fonctionner?
Mais nous l'avons dit d'ailleurs dans les mots que nous avons dit lors de la sortie de la publication du rapport. Et demain, encore une fois, nous sommes en réunion depuis ce matin. Nous allons demain, encore une fois, faire un plaidoyer, faire des déclarations pour que le gouvernement puisse comprendre. Le rôle de l'ITIE, ce n'est pas de faire des rapports où on essaye d'amoindrir les écarts. Le rôle des ITIE, c'est plutôt de déclarer les écarts et de chercher les causes de ces écarts-là pour sanctionner et arrêter l'hémorragie. C'est ça. Et nous allons déclarer encore demain par rapport à cette question.
Voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, Dialogue entre Congolais de ce soir parle du dernier rapport publié cette semaine par l'IPRDC, rapport qui a relevé des écarts entre les déclarations des recettes perçues par les régies financières de l'État et les déclarations des recettes réalisées par les entreprises extractives. J'ai trois invités dans cette émission, Christophe Mambou, qui est coordonnateur national de l'IPRDC, Jean-Pierre Mouteba, membre de la société civile et secrétaire général de la nouvelle dynamique syndicale, il est aussi membre national de l'UTRDC, et François Nsekouye, analyste économique et expert en environnement. Christophe Mambou, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les structures de l'État recouvrent toutes ces recettes et qu'en fin de compte, qu'on ait les mêmes chiffres entre ceux qui sont déclarés par les entreprises et les régies financières?
D'abord, je dois vous dire que, madame, nous sommes en train de nous apprêter déjà de publier le rapport 2008-2009. Et en cela, nous allons apporter certains nombres de correctifs par rapport au reporting que nous avons d'abord lancé pour 2007. Nous avons eu des observations, c'est vrai que les flux n'ont pas été bien définis, il n'y a pas eu de bonne définition des flux, et il n'y a pas eu beaucoup de communication aussi, de renforcement des capacités aussi. Mais pour améliorer les recettes, il n'y a pas mille solutions, c'est que d'abord, les entreprises doivent payer là où il faut payer, c'est-à-dire vers les structures de l'État, et les structures de l'État doivent verser directement au trésor public ceux qui doivent les régies qui doivent verser au trésor public. Il n'y a qu'un seul compte, un compte 1000/100 de compte du trésor général, et c'est ce compte-là qui doit récupérer tout l'argent. La rétrocession à la base n'a jamais été une bonne politique. On ne peut pas commencer par dire que parce que je travaille au FIDA, il faut me rétrocéder une partie de primes parce que j'ai mobilisé autant. Non, on travaille pour cela, on doit être rétribué, on doit avoir sa rémunération en bonne et due forme, une rémunération qui puisse vous permettre de vivre comme un homme en plein 21e siècle. Et cela fera en sorte que les gens travailleront comme se doit.
Voilà, François Nsekouye, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter à la longue ces genres des cas?
Ce que je venais de dire déjà dans mon intervention précédente, je crois qu'il faut encadrer les secteurs de mobilisation des recettes de l'État. Et je l'ai dit, cet encadrement doit se faire à quatre niveaux. D'abord, du point de vue technologique, doter les équipements qui manquent. Mambou, l'a répété ici, il n'y a pas de structure informatique qui permette d'avoir une traçabilité pour connaître au jour le jour ce qui entre dans la caisse de l'État.
Donc, c'est pas le grand problème.
Un des problèmes, je viens de dire. Mais moi, je crois que le problème majeur, c'est un problème de l'homme, bien évidemment. Comme il a dit, l'homme n'est pas différent. L'homme congolais n'est pas différent de l'homme français ni de l'homme américain, parce que le plus grand escroc du monde a été attrapé aux États-Unis pour avoir dilapidé 5 milliards de dollars des gens. Donc, mais, et nous disons ici à notre niveau, nous devons mettre l'homme à l'aise et avoir une juste redistribution des revenus ou des recettes de l'État. Il ne faut pas qu'il y ait quelques individus qui vivent dans l'opulence et d'autres qui vivent dans la misère. Quand on se rendra compte qu'il y a un effort de répartir les recettes de façon équitable, chaque citoyen se mobilisera pour pouvoir contribuer à l'effort national de mobilisation des recettes. Et j'ai dit, il y a des problèmes, comme je l'ai dit, éducationnels. Il faut éduquer les gens pour comprendre que payer l'impôt, c'est contribuer au développement de sa nation. Il n'y a pas de route sans impôt, il n'y a pas d'hôpitaux sans impôt, il n'y a pas d'école sans impôt. Donc il faut que chaque citoyen les comprenne, mais en aval, il faut que les personnes qui sont chargées de gérer nos recettes les gèrent de façon correcte pour que nous puissions effectivement prendre l'exemple d'eux, parce que l'exemple vient toujours d'en haut.
Merci François Ndekouye, je considère ça aussi comme votre conclusion. Jean-Pierre Moutéba, à cet auditeur, vous allez répondre rapidement, qui dit ceci: je pense que le ministre des Finances devrait intensifier des missions d'audit sur terrain pour améliorer cette disparité des chiffres entre les régies financières et les entreprises minières. Vous répondez à cette question et puis vous concluez aussi en une minute.
Oui, c'est que je veux dire déjà.
Voilà, on vient de perdre Jean-Pierre Moutéba. Alors, Christian Mambou, votre conclusion, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Vous pouvez répondre à la place de Jean-Pierre Moutéba, à cet auditeur, qui dit qu'il faut que le ministre des Finances intensifie les missions d'audit sur terrain pour améliorer cette disparité des chiffres entre les régies financières et les entreprises minières.
Oui, il a raison, l'auditeur a raison. Il faudrait effectivement qu'on intensifie les missions d'audit. D'ailleurs, ça, ce sont des signaux que nous venons de lancer. L'ITIE vient de mettre en place, bien mettre à la place publique, les écarts qu'il y a eu entre les déclarations des structures de l'État et des entreprises publiques, et plutôt des entreprises et des industries extractives. Alors, maintenant, il appartient à l'autorité politique, à l'autorité publique, de pouvoir mettre les instruments correctifs pour pouvoir trouver une solution et corriger cet état de situation. Je crois que c'est l'auditeur a raison.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Guy Mathé, assisté de Samuel Kachak, ont réalisé pour vous cette émission sous la supervision de Martin Sebujangwe. La technique était assurée par Guy Manzango. Au micro, c'était Kevin Coupé. Bon suivi de programme sur la fréquence de la paix. À la semaine prochaine.